voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 27 janvier 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. En RDC, l'Assemblée nationale vote une motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga qui ne s'est pas présenté devant les députés. Au Cameroun, 53 personnes ont péri calcinées dans la collision d'un bus de voyageurs et d'une camionnette transportant du carburant. Une cargaison de plus de 8 tonnes d'écailles de pangolins et d'ivoire est saisie au port de Lagos, au Nigeria. Au Ghana, l'ancien président Jerry Rawlings a été enterré avec tous les honneurs militaires. Ici même aux États-Unis, Joe Biden a signé hier une série de décrets visant à faire progresser l'égalité raciale. Également dans cette édition, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir en République démocratique du Congo. Le vote de la motion de censure du Premier ministre Sylvestre Ilunga se tient ce mercredi à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Fait marquant, l'absence du concerné. On fait le point avec Eddie Sango.
Le vote avec une majorité écrasante de 367 députés pour 7 contre, 2 abstentions et un bulletin nul met fin de manière turbulente à la primature de M. Ilunga. Une majorité simple de 251 députés était nécessaire car la Chambre basse compte 500 élus. Les députés sont passés au vote après la lecture de la motion et la justification avancée par le bureau d'âge qui gère l'Assemblée depuis la destitution de la présidente Jeannette Mabunda et de son bureau. Les élus fidèles à l'ancien président Joseph Kabila et les premiers ministres lui-même ont boycotté la séance. Initialement prévue mardi, la plénière a été reportée car les premiers ministres étaient en mission pour consulter l'ancien président Joseph Kabila à Lubumbashi. Revenu à Kinshasa, M. Ilunga a toutefois refusé de se présenter devant les bureaux d'âge et affirme attendre les bureaux définitifs dont l'élection est prévue pour le 3 février. Selon les lois congolaises, les premiers ministres a désormais 24 heures pour remettre sa démission au président de la République.
Toujours concernant la République démocratique du Congo, où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé la nomination du Sénégalais Kassim Diagne au poste de représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO. Monsieur Diagne succède à l'Américain David Gressley. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a demandé mercredi au président guinéen Alpha Condé de faire toute la lumière sur les opposants en prison agitant dans le cas contraire la menace de mesures à l'encontre de Conakry. Avec l'Union européenne, nous avons demandé aux autorités de Guinée de faire toute la lumière sur les événements qui se déroulent en ce moment avec éventuellement des mesures à prendre si cette lumière n'est pas faite, a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale. Au Cameroun, au moins 53 personnes sont mortes brûlées à Tchan dans la collision d'un bus et d'une camionnette transportant du carburant qui a enflammé les véhicules. Nathalie Barge.
Les morts ne sont pas identifiés, ils sont tous calcinés, a affirmé lors d'un point de presse à Wafunka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, évoquant également 29 blessés très graves avec des brûlures. Le gouverneur a ajouté que cela pouvait être dû au brouillard et que la camionnette avait un défaut de freinage, selon les premiers constats. Le bus de 70 places a percuté la camionnette qui allait en sens inverse autour de 3h30 du matin à la falaise de Djang, une zone réputée dangereuse pour les conducteurs en raison de ses nombreux reliefs et ravins. Fin décembre, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et 4 enfants, avaient également péri dans un accident de bus au Cameroun.
Les autorités nigériennes ont saisi 8 tonnes d'écailles de pangolins et une soixantaine de sacs remplis d'ivoire au dos d'animaux protégés à destination du Vietnam. L'annonce a été faite ce mercredi par un responsable des douanes, Abdourahmane Dia.
La cargaison saisie dans le port de Lagos le 21 janvier était dissimulée dans un conteneur de meubles, a précisé Mohamed Abakoura, le contrôleur général des douanes. Le conteneur a été ouvert et nous avons vu des bûches de bois qui cachaient la cargaison pour une valeur estimée à plus de 2 millions de dollars, a-t-il rapporté. Le Nigeria est devenu une plaque tournante des trafics des animaux pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, bien que le commerce d'ivoire soit officiellement interdit au Vietnam depuis 1992. Le pays est un marché de choix pour les défenses d'éléphants, en plus d'être un point de transit vers la Chine voisine. Le commerce illégal d'ivoire est la troisième forme de trafic la plus rentable après les stupéfiants et les armes. L'ivoire peut atteindre jusqu'à 7000 euros le kilo. Les écailles de pangolins sont recherchées en Asie du Sud-Est pour leurs prétendues propriétés médicinales. Début janvier, la Chine a condamné 17 trafiquants qui avaient introduit depuis le Nigeria des quantités importantes d'écailles de pangolins entre 2018 et 2019.
Le journaliste et lanceur d'alerte zimbabwéen Hopewell Chinono, arrêté en janvier, a été libéré mercredi par un tribunal. Il avait accusé sur Twitter la police d'avoir battu un bébé à mort. Libéré sous caution, Hopewell Chinono va devoir remettre son passeport. Il est assigné à résidence, doit se présenter au commissariat deux fois par semaine. Le tribunal lui interdit également d'utiliser son compte Twitter tant qu'il ne sera pas jugé. La Somalie pourrait faire face à une situation imprévisible si les différents leaders du pays ne trouvent pas un accord pour organiser des élections déjà maintes fois reportées, a averti l'envoyé spécial de l'ONU James Swan. La Somalie devait initialement organiser des élections législatives et présidentielles avant le 8 février, mais le processus s'est embourbé dans des désaccords entre le gouvernement fédéral de Mogadiscio et les États régionaux somaliens. Le prix des cinq continents de la francophonie a été décerné à la franco-rwandaise Bita Umbumbiye Meres pour son roman « Tous des enfants dispersés », a annoncé à l'AFP, l'Organisation internationale de la francophonie. Le roman raconte le parcours d'une Rwandaise qui vit à Bordeaux après avoir fui le génocide de 1994 et qui revient rendre visite à sa mère après des années d'exil. Au Ghana, l'ancien président Jerry John Rawlings a été enterré avec tous les honneurs militaires lors de funérailles d'État. Son corps a été mis en terre dans un cercueil drapé des couleurs nationales. Gigi Rawlings, décédé en novembre à l'âge de 73 ans, a dirigé le Ghana pendant deux décennies, d'abord à la tête d'un régime militaire, puis au cours des deux mandats présidentiels, après avoir démocratisé le pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Russie, le président Vladimir Poutine a salué ce mercredi la prolongation jusqu'en 2026 du traité russo-américain New START, un traité qui porte sur la limitation des armements nucléaires entre les deux pays. Mohamed Oumfa pour les détails.
Le traité New START, dernier accord bilatéral entre deux principales puissances nucléaires mondiales, devait expirer le 5 février prochain. Hier mardi, lors d'un entretien téléphonique, les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine ont convenu de sa prolongation. Le Parlement russe a ratifié mercredi à l'unanimité une extension de l'accord pour 5 ans jusqu'à 2026. Un accord salué par les deux parties. Cependant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, souligne que pour l'instant, les conditions d'un redémarrage des relations entre Moscou et Washington ne sont pas réunies. Signé en 2010, le traité New START limite les arsenaux russes et américains à un maximum de 1550 ogives pour chacun des deux pays, soit une réduction de près de 30% par rapport au plafond précédent fixé en 2002. Il restreint aussi le nombre de lanceurs et bombardiers lourds à 800, ce qui est largement suffisant pour détruire la planète.
Le ministère américain de la Sécurité intérieure a publié mercredi un bulletin d'alerte antiterroriste évoquant un climat de menace accrue lié à des extrémistes violents opposés au gouvernement fédéral. Le ministère précise dans un communiqué ne pas avoir d'informations sur un complot crédible spécifique. Il note toutefois que des émeutes violentes ont encore eu lieu ces derniers jours et que ces menaces pourraient persister plusieurs semaines. La Russie n'est pas favorable à un élargissement de l'accord international sur le nucléaire iranien à d'autres sujets comme l'influence régionale de Téhéran, a affirmé mercredi l'ambassadeur russe adjoint à l'ONU avant un possible réengagement des États-Unis dans l'accord. Cet accord, qui vise à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, a été conclu en 2015. Une plainte déposée contre le géant suisse Glencore, accusé d'être responsable du déversement d'eau usée au Tchad, a été jugée recevable par les autorités britanniques. En septembre 2018, une digue retenant un produit issu de la production de pétrole brut s'est rompue dans le champ pétrolier de Badilla, opéré par une filiale britannique de Glencore. La société suisse Glencore exploite le pétrole au Tchad depuis 2013. Les États-Unis et le Royaume-Uni réaffirment l'importance de leurs relations économiques, taxation des grandes entreprises, droits de douane, inégalité, climat. La nouvelle secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et son homologue britannique ont abordé mercredi les nombreux problèmes auxquels ils espèrent apporter des solutions communes après le Brexit et l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao exhorte au strict respect du prix minimum de 1000 francs CFA par kilo pour le cacao garanti aux exploitants pour la saison 2020-2021 qui s'achève le 31 mars sous peine de poursuite. Ce rappel du Conseil intervient alors que certains médias font état d'une réduction des prix d'achat du cacao jusqu'à 800 francs CFA par kilo dans certaines zones de production à cause de la baisse de la demande, explique l'agence Ecofin. La Banque africaine de développement a lancé le projet Desert to Power au Sahel pour un coût de 20 milliards de dollars. Il fera du Sahel l'une des plus grandes zones de production d'énergie solaire au monde. Le projet vise à produire 10 gigawatts d'électricité d'ici à 2025 en fournissant de l'énergie à 250 millions de personnes, dont 90 millions au moins seront connectés au réseau électrique pour la première fois. Ce projet couvre 11 pays allant du Sénégal à l'Érythrée. Pour terminer, les autorités sénégalaises ont suspendu l'accès au public du parc de Djoudj après la mort mystérieuse d'au moins 750 pélicans sans aucun lien avec un récent foyer de grippe aviaire. Situé dans le nord du pays, le parc de Djoudj abrite plus de 3 millions d'oiseaux, près de 400 espèces sur 16 000 hectares. Classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, c'est l'une des principales attractions pour les amateurs de tourisme vert. Le tourisme est la deuxième source de devises après la pêche au Sénégal.
À présent, la page de sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Deux nouveaux qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Le groupe C a désigné ses quarts de finalistes hier. Le champion en titre, le Maroc, a consolidé sa première place face à l'Ouganda, qui l'a battu 5-2. Mission accomplie aussi pour le Rwanda, qui se classe deuxième grâce à sa victoire 3-2 devant le Togo. Les Marocains 7 points et les Rwandais 5 points connaîtront leurs adversaires des quarts de finale ce soir à l'issue des dernières rencontres de poule du groupe D. La Namibie joue la Zambie et la Guinée la Tanzanie. Guinéens et Zambiens sont en tête de ce groupe avec 4 points de chaque côté, suivis de la Tanzanie 3 points et de la Namibie qui compte 0 unité. Les deux premiers quarts de finale Congo, Mali et République démocratique du Congo, Cameroun se joueront samedi et les deux derniers dimanche. Des nouvelles de la NBA, fin de série pour les Clippers qui restaient sur 7 victoires, privés des stars Kawhi Leonard et Paul George, soumis au protocole anti-Covid. Los Angeles a manqué d'armes offensives à Atlanta 108 à 99. Le Jazz a dominé les New York Knicks 108 à 94. Pour ses retrouvailles avec Washington, dont il a porté le maillot pendant 10 ans, John Wall a réussi 24 points et 5 passes décisives, contribuant au troisième succès 107 à 88 de rang de Houston 11e. Ils pensaient que j'étais fini, je voulais leur prouver qu'ils ont eu tort. Acclamé le meneur privé des deux dernières saisons en raison de blessures à un talon et à un tendon d'Achille et qui a été échangé avec Russell Westbrook à l'automne dernier. Le milliardaire américain Bill Gates a estimé dans un entretien à l'agence de presse japonaise Kyodo que le sort des Jeux Olympiques de Tokyo dépendrait des progrès des campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans le monde. Bill Gates est engagé dans la promotion et le financement de la vaccination, notamment dans les pays en développement, via la fondation Bill & Melinda Gates. À moins de 6 mois de la cérémonie d'ouverture, les JO de Tokyo, reportés d'un an l'an dernier à cause de la pandémie, apparaissent toujours menacés en raison de la recrudescence mondiale du coronavirus et de la circulation de variants plus dangereux. Le Japon connaît actuellement sa pire vague d'infection depuis le début de la crise sanitaire, ce qui a contraint le gouvernement à décréter début janvier un nouvel état d'urgence dans 11 départements du pays, dont celui de Tokyo. Les JO doivent avoir lieu du 23 juillet au 8 août prochain.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Congo-Brazzaville qui sera bientôt relié au Gabon par une route bitumée dont le financement est un prêt de la Banque africaine de développement. Les autorités congolaises ont lancé les travaux d'un premier tronçon de cette route, tronçon qui va de Dolisie à Kibangu. Prenons la route avec ce reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Depuis la fin de la colonisation, partir de Dolisie à Kibangu dans le Nyari au sud-ouest du Congo était un vrai calvaire. La route n'existait presque pas sur les 93 km à bitumer, ont reconnu les autorités. La population, en majorité paysanne et vivant des activités agricoles, jubile pour avoir vu en 60 ans les premiers kilomètres de route goudronnée. Elle exprime également les difficultés de transport auxquelles elles sont confrontées.
La route est difficile pour arriver, pour aller vendre le manioc. On peut faire 4 jours en route, vraiment, pour aller à Pointe-Noire. Pour aller à Dolisie aussi, c'est les boulous. Là où s'arrête le goudron, c'est difficile pour arriver.
Oui, bon, sortir les colis d'ici, c'était au départ un grand problème, un grand problème. Il y avait des colis qui périssaient même. Bon, je voudrais citer par exemple l'exemple de la crevette, le poisson, par manque de camion. Vous attendez pendant un jour, deux jours, et bon, le poulet est obligé de périr. Bon.
Que chez nous, là-bas, à Divenier, on cultive l'arachide, le manioc, tout, tout, tout. On préfère peut-être aller vendre ça au Gabon, mais si la route pourra être bien.
Dieu merci pour nous que cette route-là arrive jusqu'ici. On aura un nouveau pont. Bon, il est là, en face de nous, en construction.
Il s'agit de la route nationale numéro 3, Dolisie frontière Gabon. Grâce à 2,2 milliards de financement de la Banque africaine de développement, un premier tronçon, Dolisie Kibangu, est en pleine construction. Le représentant de la BAD promet d'autres financements pour la suite des travaux.
La banque, pour sa part, en sa qualité de chef de file, les bailleurs de fonds, des projets, des infrastructures, continuera sans relâche de jouer sa partition avec les autres partenaires techniques et financiers afin de relever le niveau de stock d'infrastructures et de soutenir la diversification économique et la transformation structurelle de cette partie du continent.
Le Congo, qui finance ses travaux à hauteur de 400 millions de francs CFA, met en avant l'intérêt de cette route. Jean-Jacques Bouya, ministre de l'aménagement du territoire.
C'est donc un maillon important de la liaison entre Brazzaville et Libreville. Pas moins qu'il contribuait à relier le Gabon à la République démocratique du Congo et à l'Angola par le Cabinda. Lorsque sera réalisée la route de Dolisie qui est Mongolo-Ndelakai, dont les études sur financement banque africaine de développement sont en cours.
Les travaux de construction de cette route ont été lancés au village Pandunyari par le président Denis Sassou Nguesso. De retour du pont du Nyari dans le sud-ouest, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le musée des civilisations noires de Dakar accueille une exposition qui regroupe 17 œuvres de Leonardo da Vinci reproduites en grandeur nature. Malgré la grande portée artistique de cet événement, le public lui accorde peu d'attention pour diverses raisons. De notre correspondant à Dakar, Sedina Abagui.
Mamour est un Sénégalais bon teint. Il travaille en ville, à quelques mètres du musée des civilisations noires. Cependant, comme il l'explique en Wolof, le jeune homme n'y a jamais posé les pieds et il ne s'intéresse pas trop à l'art et à la culture. Il ne connaît donc pas le célèbre artiste peintre Leonardo da Vinci.
Je ne connais Leonardo da Vinci, sincèrement, jamais entendu parler de lui. J'avoue que je ne m'intéresse pas à la culture. Je ne suis jamais allé au musée. J'ai d'autres centres d'intérêt.
Ousmane est venu faire des courses en centre-ville. Il connaît Leonardo da Vinci. Par contre, il n'était pas au courant que les œuvres de l'artiste interplanétaire étaient exposées au musée des civilisations noires.
Oui, de nom. Non, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas vu ça dans la presse. Je regarde la presse, mais je n'ai pas. Si je m'intéresse à la culture, mais je pense que bon, ça, moi, ça ne me fait rien que des tableaux de Léonard de Vinci soient exposés. Ça ne m'apporte rien du tout. Et je pense que c'est la majeure partie de la population. Donc, dans le contexte actuel, de chercher du boulot, éviter le Covid.
Enfin, un qui ne connaît pas da Vinci que de nom. Néanmoins, comme nos précédents interlocuteurs, il ne savait pas que 17 de ses œuvres, reproduites en grandeur nature, étaient exposées au musée des civilisations noires. Ce furie de la culture sans désordre.
Je ne suis pas au courant, c'est vous qui nous l'apprenez. Je crois que c'est lui qui a peint la Joconde. Ok, voilà, je connais, mais je ne suis pas au courant que vraiment il y a de ces œuvres qu'on a exposées ici. Peut-être que c'est le manque de temps ou bien la publicité n'est pas passée. Sinon, moi, je vais souvent à des expositions. Comme vous m'avez dit, j'ai un ami qui est peintre qui expose ses œuvres jusqu'au mois de février. Mais pour Léonard de Vinci, franchement, je ne suis pas au courant. Ça ne marche pas parce que ça faisait longtemps que Dakar était une plate tournante de tout ce qui est culture. Ça fait des années que Dakar a perdu cette renommée-là. Hein.
Pour Ousseyne Wade, commissaire associé de l'exposition, cet événement est une occasion unique pour les Sénégalais de découvrir les œuvres magnifiques de Leonardo da Vinci.
Il arrive parfois que des génies apparaissent à travers le monde de temps en temps, ici ou là, et émerveillent le monde par leur créativité, leur esprit d'imagination, leur productivité à la fois intellectuelle, artistique, scientifique. Et Leonardo da Vinci fait partie de ces catégories de personnes-là. Et c'est pourquoi nous parlons toujours de génie.
Leonardo da Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci et est mort le 2 mai 1519 à Amboise. Il était un peintre italien et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, scientifique et architecte. Il est l'auteur de plusieurs chefs-d'œuvre, dont le célèbre tableau La Joconde. Malheureusement, l'exposition à Dakar de 17 reproductions grandeur nature de ses œuvres ne suffit pas à emballer des Sénégalais, toujours très marqués par les contraintes du Covid-19. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a signé mardi une série de décrets qui, selon la Maison-Blanche, feront progresser l'égalité raciale pour les Américains qui ont été laissés pour compte. Les actions de Biden rejettent le racisme, les préjugés et la xénophobie, y compris contre les Américains d'origine asiatique suite à la flambée de coronavirus. Patsy Widakwazura, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est signé Lionel Gaïma.
La quête de justice raciale est au centre de préoccupation aux États-Unis depuis la mort de George Floyd à Minneapolis en mai dernier. Le président Joe Biden.
C'était un genou sur le coup de la justice. Et cela ne sera pas oublié. Cela a éveillé la conscience de dizaines de millions d'Américains. Et à mon avis, cela a marqué un tournant dans l'attitude de ce pays envers la justice.
Selon la Maison-Blanche, les 4 décrets signés mardi par le président Biden feront progresser l'égalité raciale pour les Américains qui sont laissés pour compte. L'Africaine-Américaine Susan Rice est directrice du Conseil de la politique intérieure de la Maison-Blanche.
Ce ne sont pas des politiques de bien-être, c'est évident. Investir dans l'équité, c'est bon pour la croissance et cela crée des emplois pour tous les Américains.
Les actions de Biden prennent le contre-pied de plusieurs politiques de l'administration Trump. Il a demandé aux agences de renforcer les lois anti-discrimination sur le logement et mettre fin à l'utilisation des prisons privées par le ministère de la Justice. Une pratique qui, selon les militants, a aggravé les disparités raciales. Bien que le taux d'incarcération de Noirs ait diminué ces dernières années, il est toujours plus de 5 fois plus élevé que le taux d'incarcération des Blancs. Steve Phillips est de l'organisation Democracy in Color.
Si vous avez un système à but lucratif qui paye les gens en fonction du nombre d'incarcérations, ils voudront mettre de plus en plus de gens en prison. Donc les incitations sont toutes fausses en termes de capacité à répondre aux objectifs sociétaux de sécurité publique et de réadaptation des membres de notre société.
Biden réitère l'engagement du gouvernement américain à mieux consulter les 574 tribus amérindiennes reconnues au niveau fédéral. Et il veut aussi lutter contre la discrimination envers les Américains d'origine asiatique et les insulaires du Pacifique qui s'est intensifiée depuis le début de la pandémie de coronavirus. L'Américaine d'origine asiatique Tiffany Yeo.
Les personnes qui ont l'air asiatiques ou qui ont l'air chinois sont perçues comme porteuses du virus.
La pression de Biden pour distribuer les ressources en se concentrant sur les besoins des minorités est critiquée par les conservateurs qui estiment que la véritable égalité, c'est de donner à tous les mêmes ressources, peu importe leurs origines. Mike Gonzalez de la Heritage Foundation est un think tank basé à Washington.
La définition de l'égalité par la gauche est un traitement inégal pour obtenir des résultats égaux. Ce n'est pas ce que nous sommes. C'est ce que le marxisme prétend faire pour obtenir des résultats égaux. Nous n'avons pas les mêmes résultats. Nous permettons à tout le monde de s'épanouir.
Le programme d'égalité raciale de Biden cherche à répondre aux besoins de personnes qui l'ont aidé à gagner la Maison Blanche. En 2020, les électeurs noirs ont représenté 11% de l'électorat et plus de 90% des Africains-Américains ont voté pour Joe Biden et Kamala Harris.
Et c'est la fin de ce journal. À la mise à nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Stagnot et Joselle Morissin. À la présentation, John Lydon, édition en chef, Idriss Ball. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En 1993, après avoir déterminé que le gouvernement soudanais hébergeait et soutenait des terroristes, y compris le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, les États-Unis ont désigné ce pays comme un État soutenant le terrorisme. Une telle désignation a des graves conséquences. Le pays en question devient un paria international, les investisseurs l'évitent, tandis que d'autres pays s'en méfient. Il est interdit aux États-Unis de fournir de nombreux types d'assistance directe à ce pays. Le gouvernement américain doit imposer divers contrôles à l'exportation et s'opposer aux prêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à un tel pays. Une désignation comme pays soutenant le terrorisme limite la capacité d'un pays à participer au système économique mondial. Cette désignation a également coûté au Soudan son immunité souveraine, une doctrine juridique qui met les gouvernements à l'abri de poursuites civiles ou pénales. En conséquence, les victimes des attaques d'Al-Qaïda et leurs familles ont poursuivi le gouvernement soudanais devant des tribunaux américains. Dans des affaires distinctes, les tribunaux américains ont statué que le Soudan devait des réparations aux familles des victimes des attentats à la bombe perpétrés en 1998 contre des ambassades américaines à Dar es Salaam en Tanzanie et à Nairobi au Kenya, ainsi qu'aux familles de 17 Marines américains morts à la suite d'un attentat à la bombe au Yémen contre le destroyer américain Cole. En août 2019, le peuple soudanais a renversé son dictateur de longue date et le nouveau gouvernement provisoire a déclaré que sa priorité absolue était de débarrasser le Soudan de son statut de paria et de rejoindre à nouveau la communauté des nations. À cette fin, le gouvernement soudanais a accepté de régler les jugements rendus contre lui, fournissant 335 millions de dollars qui seront distribués entre les plaignants. À la suite d'un nouvel examen des progrès réalisés par le Soudan le 14 décembre, les États-Unis ont retiré le Soudan de sa liste des États soutenant le terrorisme. Le 28 décembre, la loi sur les crédits consolidés a été promulguée avec un libellé ouvrant la voie vers le rétablissement de la plupart des immunités souveraines du Soudan. Cette étape représente un changement fondamental dans les relations du Soudan avec non seulement les États-Unis, mais aussi l'ensemble de la communauté internationale. Il élimine un obstacle majeur à la réintégration totale du Soudan dans l'économie mondiale en réduisant le risque de saisie des actifs du Soudan, ouvrant la possibilité d'une augmentation substantielle du commerce et de l'investissement, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.